Bonjour, bonjour et bienvenue dans Carrefour du Monde, l'émission qui s'efforce de vous donner des points de vue alternatifs, des points de vue en décalage du traitement consensuel de l'actualité internationale. Vous connaissez le concept, hein, maintenant, un réseau de correspondants disséminés aux quatre coins du globe, des éditoriaux, des reportages. Carrefour du Monde, c'est l'émission qui vous informe autrement et cette semaine, nous consacrerons une large partie de l'émission au dossier irakien. Nous irons en France, où Jacques Chirac, le nouveau Gandhi, comme on le surnomme à Paris, surfe sur une popularité sans précédent suite à sa menace de veto à l'ONU contre l'agression américaine. Plus profondément, nous irons au cœur d'une manifestation anti-guerre à Grenoble. Nous constaterons que parallèlement à la contestation pacifiste, les milliers de personnes qui descendent dans la rue tous les week-ends s'opposent d'une manière générale à la politique extérieure américaine. De manifestation, il en sera question tout au long de l'émission aujourd'hui, puisqu'en Espagne, malgré une écrasante majorité, les pacifistes sont contraints à s'écraser devant la soumission du gouvernement Aznar à la politique de George Bush. Au Canada, c'est dans ce contexte international ultra tendu que certains citoyens éliront leur prochain gouvernement provincial. Nous en mesurerons les conséquences. Nous aurons le point de vue britannique également sur cette crise avec Tony Blair sur la sellette et une opinion farouchement opposée à la guerre. Et puis en Belgique, c'est un nouveau scandale alimentaire qui voit le jour. Des cas de peste ont été découverts dans plusieurs élevages de volailles. Nous parlerons également du collectif RAP, réponse à l'agression publicitaire qui s'exprime sur les boulevards bruxellois. Cette semaine, Carrefour du Monde consacre un reportage sur Zaléa TV, une chaîne câblée française indépendante, mais l'indépendance dans les médias, ça coûte cher. Certains partis de droite et d'extrême droite ont décidé de ne pas donner à Zaléa TV les subventions nécessaires. Les aléas de Zaléa, c'est le reportage de Carrefour du Monde dans une vingtaine de minutes. Carrefour du Monde est diffusé à Montréal, au Canada, sur CISM 89,3 FM, à Bruxelles, Radio Campus 107.2 FM et sur Radio Panique 105.4 FM. Nos correspondants à travers le monde se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à l'écoute de cette édition. Nous sommes ensemble pour la prochaine demi-heure. Pour débuter cette émission, honneur aux perdants, c'est la coutume. Honneur aux États-Unis qui semblent bien perdre la bataille de la conquête de l'opinion publique mondiale. Dans l'écrasante majorité des pays, cette opinion s'oppose farouchement à la guerre, s'exprime dans un soulèvement international encore jamais vu. Et pourtant, ce sont bien les armes classiques qu'a ressorti le gouvernement américain, les armes efficaces aussi, avec en première ligne la désinformation et la manipulation médiatique. Quand l'Amérique prépare sa guerre en Irak, les militaires peuvent donc compter sur le soutien des plus grands médias. Après le dénigrement de la méchante France indigne et amnésique, le nouveau cheval de bataille de la presse américaine semble être l'ONU, rien que ça, l'Organisation des Nations Unies censée garantir la paix dans le monde par la sécurité collective. Et coïncidence, c'est justement à ce moment précis que Washington doit renoncer à convaincre un conseil de sécurité moins va-t-en-guerre que la Maison Blanche. Média d'Amérique, média de guerre, c'est le thème de la revue d'actualité de notre correspondant à New York, André-Michel Sungu.
Tout commence à l'heure du petit déjeuner et pas une chaîne de télévision ne fait exception. CNN tout d'abord qui ouvre sur ses fameuses news alertes et les manchettes du jour. À la une, c'est désormais un rituel, l'Irak et bien sûr l'Irak. La présentatrice, le sourire commercial en coin, vous annonce un tour à Bagdad où règne toujours le méchant Saddam, un passage à Paris où l'indigne Chirac s'oppose à son renversement, une escale à Londres chez l'ami Tony Blair, un arrêt à New York au siège des Nations de moins en moins unies et enfin le terminus du jour chez le bon et très décidé George Bush à Washington, vous l'aurez compris. Au bout de ce marathon auquel on a assisté sans grand recul, puisque je vous le disais, on sort à peine du lit, on apprend que ce matin encore, la bonne Amérique a quelque mal à convaincre certaines nations de la très vieille Europe sur la nécessité et l'urgence de se débarrasser du cancer nommé Saddam. L'indignation des journalistes qui vous le disent est telle que vous en devenez agacé, mais pour vous rassurer, apparaît à l'écran la star américaine de l'heure, George Bush, la mine compassée, l'œil brillant, le regard vaguement absent, martèle que l'Amérique n'a besoin de personne pour agir. Voilà qui est bien dit, conclut notre journaliste au sourire commercial. Autour de midi, sur Fox TV, la chaîne la plus regardée aux États-Unis, l'info c'est évidemment l'Irak. Le débat oppose deux grands spécialistes des affaires du monde devant un panel de spectateurs bruyants. Le premier orateur, visiblement mal dans sa peau, tente de dire que la Corée du Nord est une menace bien plus grande que l'Irak. Le deuxième s'en émeut et se lance dans une description pour le moins effrayante de l'arsenal militaire du tyran de Bagdad. Conclusion, il faut liquider cet homme, l'Amérique doit le faire et maintenant. Applaudissements dans la salle, tout le monde est content. D'autant qu'immédiatement apparaît la calvitie la plus célèbre d'Amérique, celle de Harry Fleischer. Le porte-parole de Bush porte donc la parole du maître, étrangement monotone mais toujours religieusement retransmise par l'ensemble des grands médias. l'on n'apprend évidemment rien qu'on ne sache déjà, mais peu importe, les émissions spéciales se succèdent. Et dans l'une d'elles, on envoie nos vœux aux braves GIs stationnés dans le golfe Persique, dans l'attente d'une guerre plus que jamais urgente. Les plans de cette guerre figurent dans la presse du jour, à l'onglet d'éditoriaux. Celle-ci rappelle combien elle est justifiée, à cause notamment des horreurs endurées par l'Amérique le 11 septembre 2001. Horreur imméritée, assurent les chroniqueurs, puisque ce sont nos valeurs et notre liberté que les terroristes, que le monde nous envie. Un tel argumentaire, évidemment, ne laisse pas de doute. On y soit donc qui ose rompre le consensus belliciste. Le New York Times a fait exception il y a quelques jours, se situant désormais dans le camp anti-guerre, rejoignant pour l'occasion la petite presse alternative américaine. Reste que majoritairement, les médias d'Amérique ont pris le parti de la guerre, un choix nourri d'un mélange de patriotisme, d'opportunisme et de cynisme. Lors du génocide au Rwanda en 1994, les médias ont répandu la haine et contribué à une catastrophe que le monde ne voulait pas voir. Les principales victimes en furent les Rwandais, puisque le crime eut lieu à huis clos. Entre eux et ceux d'Amérique, la différence est sans doute significative, mais le combat semble si commun. La différence véritable demeure, il est vrai, que les victimes de cette guerre annoncée sont loin, très loin de la libre Amérique. À New York, André-Michel Issungou pour Carrefour du Monde.
En France, le grand vainqueur médiatique de ces préparatifs de guerre s'appelle Jacques Chirac. On le surnomme Gandhi, le Chi ou encore le Mandela français, c'était dans le quotidien La Croix. Bref, on s'emballe un tout petit peu quand même. Lundi dernier, 17 millions de téléspectateurs ont suivi le discours du chef de l'État sur la télévision française. Et Chirac l'a dit sans sourciller, la guerre est un constat d'échec. Clairement, il l'a annoncé, quelles que soient les circonstances, la France votera non, car il n'y a pas lieu de faire une guerre pour désarmer l'Irak. Résultat, le président français, après sa victoire le 21 avril dernier au présidentiel face à la menace d'extrême droite, s'offre donc sur un plateau une deuxième possibilité de rentrer dans l'histoire. Sur le front de la bataille de l'opinion, Chirac a donc déjà gagné, tout le monde le suit. La droite comme la gauche, les médias, la France d'en haut, celle d'en bas, et même le pape, si bien qu'on ne sait plus trop si c'est l'opinion qui le suit ou si c'est lui qui suit l'opinion. Mais attention quand même, car si la guerre est à n'en pas douter un constat d'échec, elle peut parfois servir, et c'est l'avis du Canard enchaîné, à en masquer d'autres, comme les licenciements massifs qui s'enchaînent dans l'Hexagone, la crise franco-ivoirienne, ou l'état policier qui s'installe peu à peu en France. Et même si Jacques Chirac n'a pas de droit de veto contre les plans sociaux, ça plane pour lui en ce moment. Son opposition aux États-Unis a d'ailleurs été qualifiée de gaullienne dans la plupart des médias français. La mobilisation populaire, en tout cas, ne faiblit pas en France. Tous les week-ends, dans les grandes villes de province, les manifestations se multiplient à l'appel des syndicats, associations et partis de gauche. Des manifestations qui en disent long sur le sentiment anti-américain en France. Car au-delà de la crise irakienne, c'est la politique extérieure américaine qui est visée. Je vous propose d'écouter quelques réactions de manifestants. C'était à Grenoble, samedi dernier.
Je crois que Bush ne s'en rend pas compte de ce qui se passe par rapport au peuple, la démocratie, qui refuse cette guerre. Il ne veut pas en tenir compte et je crois qu'il est en train de marcher sur des brasiers parce qu'on se rend compte que finalement, qui sont les Américains? Quelque part, cette guerre que M. Bush est en train de préparer mobilise le monde entier et on se rend compte que finalement, la politique américaine a toujours été une politique impérialiste, une politique capitaliste.
Je crois que Bush, malgré ce qu'il dit, à des difficultés qu'il n'avait pas prévues. C'est quand même la première fois, avant que la guerre soit officiellement déclarée, même si elle a déjà lieu, malheureusement pour le peuple irakien, avant qu'une guerre soit officiellement déclarée, il y a autant de mobilisation au niveau du monde entier. Et aujourd'hui, il est quand même un peu ennuyé par cette popularité contre la guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, ça pèse. Ça pèse pas assez, mais ça commence à peser beaucoup. Ça fait énormément chaud au cœur parce qu'on est beaucoup à avoir déjà vécu, malheureusement, la guerre de 1991. Et on avait eu beaucoup de mal à mobiliser. Et cette année, cette guerre paraît tellement insensée, elle n'a tellement pas d'autre objectif que d'asseoir encore un peu plus la suprématie des États-Unis et de ses alliés, qu'elle paraît injuste au monde entier, ça c'est très très bien. Il y a beaucoup de causes qui viennent se greffer sur ces manifestations. Il y a aussi le soutien à la Palestine, parce qu'effectivement le peuple palestinien va payer très cher cette offensive contre l'Irak. Il y a aussi, pour nous, une lutte contre notre propre impérialisme, parce que ce qui se passe en Afrique, c'est pas joli joli, et la responsabilité, elle est bien de notre gouvernement. Il y a tout ça. Et puis, il y a aussi que en dehors de la guerre, et ben malheureusement, les mauvais coups continuent. Et aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Il y a des gens dans la manif qui me disaient qu'ils en avaient ras-le-bol des licenciements massifs. Et tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de monter, une vraie colère populaire. Et moi, je crois que c'est une très bonne nouvelle de voir. Ça fait chaud au cœur, effectivement, de voir tout ça. Et il faut continuer.
C'est quelqu'un qui montre très bien qu'il veut faire sa guerre et il la fera. Mais nous, on fera entendre notre voix aussi.
Ça vous fait chaud au cœur de voir que les mobilisations tiennent, même si elles se répètent semaine après semaine et qu'il y a toujours plus en plus de monde?
C'est-à-dire, si on manifeste au moins sa volonté, c'est après c'est le désespoir. D'accord. On se défoule un peu.
D'accord. Donc il y a évidemment la guerre en Irak qui est le dénominateur commun de tout ça, mais il y a tout un tas de causes qui touchent de près ou de loin à la politique américaine extérieure. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Les Américains veulent actuellement, après la disparition du bloc soviétique, ils veulent dominer le monde, et ça se voit clairement. Et le problème n'est pas le problème de l'Irak, c'est le problème de la domination américaine sur le monde.
À Madrid, en Espagne, les manifestations anti-guerre se multiplient également. La différence, c'est que le gouvernement espagnol fait plus que jamais la sourde oreille aux revendications pacifistes de la majorité des citoyens. José María Aznar, par peur de déplaire au grand allié américain, a étouffé les protestations effarées de l'opposition, tout comme les voix discordantes de son propre parti. Le Premier ministre espagnol a annoncé son intention de partir en guerre sur la base de la résolution 1441, après l'échec du projet de deuxième résolution. Une façon d'anticiper servilement les ordres du grand patron nord-américain. À Madrid, on retrouve Emmanuel Stills.
L'Espagne au mois de mars 2003, cela fait des semaines que le débat politique n'a pas changé d'un iota. Gouvernement et opposition s'affrontent toujours sur l'Irak, avec de temps en temps une goutte de pétrole du prestige pour relancer la machine polémique. À une cadence routinière, le groupe socialiste et les autres groupes de l'opposition au Parlement introduisent leur motion de censure sur l'attitude du gouvernement Aznar dans la crise irakienne, motions qui sont tout aussi régulièrement rejetées par le Parti populaire et sa majorité absolue. Majorité absolue qui n'a pas failli au moment du vote à bulletin secret proposé par les socialistes sur la question de savoir si le Parlement soutenait la politique extérieure d'Aznar. Le but avoué était bien entendu de détecter les voix discordantes au sein de la majorité. Mais la division du Congrès est restée inébranlable. Chacun des 169 députés populaires s'est aligné sur la politique de la guerre illégale. Scandale, la majorité s'est même applaudie à l'annonce du résultat, célébrant naïvement son unité autour d'une déclaration de guerre. Au Parti populaire, on demande tout de même à Aznar de modérer ses instincts et de limiter la participation espagnole à un conflit armé à l'usage des bases militaires par les Américains. Hypocrisie et couardise face au peuple espagnol et face à sa propre opinion. Le parti au pouvoir évolue pesamment entre la fermeté de la guerre et la peur de celle-ci, mais finalement, c'est la peur de cette même peur qui prend le dessus. Pourquoi ruminer pendant 20 ans ma vengeance contre le socialisme corrompu si c'est pour à la première occasion venue donner au socialiste Oni le bâton avec lequel il me battra, et brader par la même occasion toutes ces belles mesures rétrogrades déjà votées? Dans la tête du député de droite, la confusion se dissipe. Il faut renverser les socialistes et démanteler leurs arguments de persuasion massive. Parce que le Parti populaire s'imagine que la guerre se joue dans les tranchées du Parlement à coups d'invectives violentes, certes, mais verbales. Ils veulent la guerre, bien, mais ils ne veulent pas les morts, le sang, l'horreur, bref, tout ce qui va avec. Dans ce cas, auront-ils l'honnêteté d'affirmer qu'ils veulent la paix? Ou attendront-ils d'être assis sur le banc des accusés du Tribunal pénal international où une partie de l'opposition veut les traîner pour se rendre compte de ce qu'est la guerre? Comment le gouvernement espagnol pourra-t-il répliquer par des arguments humanitaires? Saddam Hussein est un effroyable tyran qui opprime son peuple, etc. Pourquoi n'utiliser cet argument que lorsqu'il sert les intérêts espagnols? Autrement dit, pourquoi les réfugiés irakiens qui demandent l'asile à l'Espagne sont-ils systématiquement refoulés et expulsés? Ne s'agissait-il pas précisément du peuple irakien à protéger? Ou s'agit-il plutôt de maintenir le peuple irakien en situation d'oppression afin de préserver les arguments en faveur de la guerre? Dernièrement, plus d'une centaine d'Irakiens ont vu leur demande d'asile rejetée par les autorités espagnoles. Ils n'avaient pas bénéficié d'une assistance juridique adéquate et on leur avait assigné des traducteurs qui ne les comprenaient même pas. Nous nous rendons bien compte qu'ici, personne ne veut la guerre, c'est pourquoi nous l'exportons en Irak. C'est un dessinateur de presse qui fait parler Aznar de la sorte, mais qui s'étonnerait de voir le vrai Aznar tenir de tels propos à présent? Son cynisme incohérent et agressif, déversé en continu par les médias assujettis, commence à s'intégrer dans le paysage quotidien des Espagnols. Un éclair de lucidité semble toutefois avoir traversé l'esprit d'Ana Palacio, la ministre espagnole des Affaires étrangères. À la suite de sa rencontre avec De Villepin, le chef de la diplomatie française, elle n'a pas exclu la possibilité de retirer la nouvelle proposition de résolution onusienne, née des aspirations guerrières des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. Reste à savoir si Ana Palacio a vraiment le pouvoir de retirer quoi que ce soit. Parce que son premier ministre, de son côté, a enfin abattu ses cartes. Après des semaines de babillage confus, l'argumentation de José María Aznar pour l'Irak tient désormais en une phrase. « Je ne me résignerai pas à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies se montre incapable de faire respecter les résolutions qu'il a été capable de voter à l'unanimité. » En fait, Aznar tente désespérément que le monde voit en lui un nouveau gendarme. Mais comme pour son modèle nord-américain, la carrure est aussi piètre que les arguments. À Madrid, Emmanuel Stales pour Carrefour du Monde.
Poursuivons notre tour du monde. Des marches pour la paix au Canada. La mobilisation anti-guerre se développe, mais dans un contexte particulier, car c'est dans cette période incertaine que certains Canadiens éliront très prochainement leur futur gouvernement provincial. Double enjeu donc pour le gouvernement. À Montréal, les explications de notre correspondant Éric Larouche.
De Vancouver à Winnipeg, en passant par Toronto, Montréal et Moncton, des milliers de Canadiens sont retournés dans les rues de plus de 40 villes du pays pour manifester pour la paix en Irak. Au même moment, le premier ministre Jean Chrétien continue de discuter avec ses homologues des pays siégeant au Conseil de sécurité afin de les convaincre d'appuyer la proposition canadienne. Jean Chrétien suggère de laisser environ 3 semaines supplémentaires à Bagdad pour démontrer que le pays collabore à son désarmement. Le chef de la mission d'inspection, Hans Blix, devrait dresser une liste des conditions que le gouvernement irakien devrait respecter. Au bout de 3 semaines, si le Conseil de sécurité juge que le régime irakien a fait la preuve de sa collaboration, une autre date limite pourra être fixée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la résolution 141 soit respectée. Cependant, certains membres de l'opposition, dont le Bloc québécois, se questionnent et réclament que la position canadienne interdise l'utilisation de la force contre l'Irak. C'est dans cet esprit d'incertitude mondiale que les élections provinciales ont été déclenchées au Québec. Les électeurs éliront le prochain gouvernement le 14 avril. Les sondages placent le parti au pouvoir, le Parti québécois, à égalité avec le Parti libéral, et l'Action démocratique, que plusieurs voyaient au pouvoir il y a quelques semaines, continue de perdre des plumes et se retrouve troisième. Une journée avant le début des élections, la ministre des Finances du Québec, Pauline Marois, a présenté un budget équilibré qui ne prévoit aucune hausse de taxes ni baisse d'impôts. En 2003-2004, Québec haussera ses dépenses de près de 4%. 1,4 milliard de dollars seront investis en santé l'an prochain. Dans la province voisine, l'Ontario, élections et budgets sont également au programme. Le premier ministre a surpris à peu près tout le monde en annonçant que l'Assemblée législative reprendra ses travaux le 30 avril et non la semaine prochaine, comme prévu. Cette décision écarte pratiquement toute possibilité d'élection provinciale avant la mi-mai, comme plusieurs observateurs s'y attendaient. Le premier ministre ontarien en a profité pour annoncer que le budget provincial sera présenté la semaine prochaine à Toronto. Ici Éric Larouche à Montréal pour Carrefour du Monde.
En Angleterre, évidemment, le dossier irakien occupe la plupart des colonnes des journaux et rien ne va plus pour le Premier ministre, Tony Blair. Les 6 propositions britanniques déposées jeudi dernier ont été rejetées du revers de la main par la France et la Russie. Une gifle en plein visage de celui qui en a déjà reçu plusieurs ces derniers jours. Les efforts diplomatiques de Londres ont été vains. Le projet de compromis britannique a été perçu plutôt comme une résolution ouvrant la voie à la guerre. À Édimbourg, en Écosse, et pour clore notre page sur le conflit irakien, on retrouve Hélène Mercier.
Comment fait-il pour se tenir encore debout alors que le premier ministre britannique devrait être au sol, complètement chaos? Après la kyrielle de coups de gueule et de gifles que lui ont infligés les alliés, les ennemis et les membres de son cabinet, Tony Blair demeure dans le combat, manquant de force, certes, mais toujours aussi déterminé à neutraliser Saddam Hussein. Premier round. Dimanche dernier, sa ministre du Développement international, Claire Short, a annoncé son éventuelle démission si une intervention militaire avait lieu sans l'aval général des Nations Unies. Avec son franc-parler légendaire, elle a tenu bon d'ajouter que les politiques de Blair étaient inconséquentes. Premier coup que le premier ministre a su encaisser sans trop de douleur. Puis une quarantaine de députés de l'aile gauche du parti invitaient leur chef à reconsidérer sa position. Traduction, si vous n'êtes pas disposé à vous lever contre George W. Bush, la porte est par là. À peine le temps de reprendre son souffle que les syndicats lui faisaient une visite surprise à Downing Street. M. Blair lui a dit le Trade Union Congress, le TUC. Il y aura certainement un exode de militants en cas de guerre hors du cadre onusien. Et le TUC est le fondateur du parti au pouvoir, le Parti travailliste. Une bonne gorgée d'eau s'imposait alors. Deuxième round. Mardi soir est arrivé le crochet brutal, celui qui lui a fait voir des étoiles. Le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, annonçait que les États-Unis pourraient intervenir en Irak sans l'appui des troupes britanniques. Après tant de gages de loyauté, comme se mettre son gouvernement et la population à dos, après 40 000 soldats du royaume déplacés dans le Golfe, « Merci mon ami, mais on peut fort bien se passer de toi, et notre guerre, on l'amènera à notre guise de toute façon. » Mais il a fait face, il a redéfendu avec fougue à la Chambre des communes le bien fondé de son approche irakienne. Confiant, reprenant peu à peu du poil de la bête, il a proposé jeudi aux Nations Unies d'énumérer 6 conditions que l'Irak devra satisfaire pour éviter une guerre. Parmi ces conditions, Saddam Hussein doit annoncer publiquement à la télévision irakienne qu'il détient des armes de destruction massive cachées et qu'il va les détruire. Croyant enfin marquer un point, Tony a reçu le coup de pied qui a fait mal. La France lui a dit d'aller refaire ses devoirs. Des propositions ne répondent pas aux questions posées par la communauté internationale. Chirac et Poutine ont vite bloqué ce nouveau compromis. La sueur perlait sur son front. Chéri avait beau lui répéter qu'il était le plus fort, Tony ne faisait plus d'illusions. Le découragement était palpable dans sa voix quand il a annoncé qu'une deuxième résolution de l'ONU sur l'Irak était maintenant moins probable que jamais et qu'une action militaire se rapprochait. Le combattant se transforme maintenant en guerrier, toujours fidèle à l'allié ingrat et effronté qu'il a remercié du revers de la main, passant outre les menaces de démission de Claire Short, maudissant Chirac, Blair ne fait donc qu'à sa tête. Gardera-t-il cette détermination arrogante jusqu'à la fin? Est-ce que ces 40 000 soldats britanniques auront été déplacés en vain? C'est ce que nous saurons, malheureusement, dans un épisode très rapproché. Hélène Mercier pour Carrefour du Monde au Royaume-Uni.
Pour terminer notre tour du monde de l'actualité internationale, je vous propose de faire escale en Belgique. La Belgique à nouveau frappée par un scandale alimentaire avec la découverte de cas de peste dans des élevages de poulets. En raison des risques, la Commission européenne a interdit l'exportation de volailles belges. Cette crise porte un nouveau voile noir sur les dangers de l'industrie agroalimentaire, d'autant plus qu'elle intervient en plein procès anti-OGM à Bruxelles. Un commando de militants écologistes est appelé à la barre pour avoir détruit des parcelles de maïs et colza transgéniques dans une ferme expérimentale appartenant à la multinationale Monsanto. À Bruxelles, Nicolas Willems.
Pendant que tous les yeux sont braqués sur l'Irak, qu'il s'en passe de belle en Belgique. En effet, le royaume connaît un nouveau scandale alimentaire. Après la crise de la vache folle, la fièvre aphteuse du mouton et le poulet à la dioxine, on a constaté l'apparition de la peste aviaire chez le poulet. Appelée également grippe du poulet, il s'agit d'une infection virale non transmissible à l'homme. Face à cette nouvelle épidémie, la Commission européenne a suspendu l'exportation de volailles belges. Plus de 12 000 poulets ont été exterminés et des dizaines d'exploitations ont été placées sous surveillance. Ce nouveau scandale de l'agroalimentaire est révélateur d'une certaine agriculture, une agriculture industrielle et des élevages intensifs où la rentabilité est le maître mot aux dépens de la santé publique. Une chaîne alimentaire chronométrée qui veut toujours produire plus et toujours plus rapidement, mais sans véritable souci de qualité. Ce n'est pas la première crise de ce type. Comme toujours, les pouvoirs publics répondent a posteriori sans jamais se concentrer sur les causes du problème, les dangers de l'industrie agricole face à la santé et à l'environnement. L'épidémie de peste aviaire est apparue au moment du premier procès anti-OGM en Belgique. 13 militants ont été appelés devant la justice pour avoir détruit des champs expérimentaux de la multinationale Monsanto. Lors du procès, les opposants aux organismes génétiquement modifiés ont rappelé les dangers des OGM sur l'homme et la nature. À titre d'exemple, on a constaté une explosion des allergies alimentaires aux États-Unis qui sont un grand producteur d'OGM. Sur le plan environnemental, on craint le risque de dissémination. Des OGM plus résistants aux insecticides pourraient se croiser avec avec d'autres plantes sauvages et créer ainsi des plantes mutantes. Monsanto, pour sa part, n'a pas apprécié l'action des anti-OGM. Il faut dire qu'il s'agit d'un marché juteux pour cette entreprise qui détient tous les brevets. Monsanto espère vendre les semences des plantes modifiées avec des pesticides, la technologie incorporée. Face à la destruction de ces champs d'OGM, la multinationale parle de violation de propriété privée. Les opposants pointent, eux, l'opacité sur les risques des OGM. Quoi qu'il en soit, l'action des anti-OGM a enfin permis de lancer le débat sur ce qui pourrait bien être une nouvelle dérive de l'agroalimentaire.
Et toujours en Belgique, une enquête de la Commission européenne sur les technologies énergétiques a révélé le souhait des Européens d'intensifier les recherches sur ces nouvelles énergies. Plus de sécurité dans les centrales et dans le traitement des déchets sont demandés. Et puis le collectif RAP, entendre réponse à l'agression publicitaire, sévit dans les boulevards bruxellois. Une opération contre un autre type de pollution, celle-là, la pollution publicitaire dans les villes. Munis d'échelles et de bombes de peinture, ils ont décoré plusieurs panneaux d'affichage. Nicolas Willems.
Au moment où beaucoup s'inquiètent du sort du pétrole irakien, la Commission européenne a réalisé une enquête sur l'énergie et les technologies énergétiques. 16 000 personnes des 15 États membres ont été interrogées. Les résultats montrent la préoccupation des Européens pour le développement de solutions durables. L'enquête souligne d'abord l'intérêt pour le développement des énergies alternatives comme le solaire ou l'éolienne, l'exploitation de nouvelles sources comme la fusion nucléaire et la mise au point de technologies pour économiser l'énergie. Concernant le nucléaire, personne ne souhaite abandonner cette source malgré les multiples dangers. Il y a néanmoins une demande pour l'amélioration de la sécurité des centrales et le retraitement des déchets radioactifs. L'étude indique également l'attitude paradoxale des Européens. D'un côté, ils se disent préoccupés par le réchauffement de la planète et les changements climatiques. De l'autre, ils ne veulent pas changer leurs habitudes de consommation. La Belgique a connu sa première action anti-pub. Le RAP, Résistance à l'agression publicitaire, a voulu montrer sa colère face à ce qu'ils appellent le matraquage publicitaire. Inspiré par l'exemple du groupe français Casseurs de pub, le RAP s'est lancé dans une vaste campagne anti-pub. Munis d'échelles et de bombes de peinture, les militants ont bariolé différents panneaux publicitaires dans la ville de Bruxelles. Les messages des affiches ont été détournés dans un sens assez humoristique. La police de Bruxelles, quant à elle, n'a pas réagi avec humour. Elle a procédé à deux arrestations pour vandalisme. Lors de l'action, l'un des militants rappelait qu'il ne rejette pas la publicité comme mode d'information et de communication. Il veut surtout résister contre l'excès de la publicité et dénoncer la dimension idéologique particulièrement vicieuse de la pub commerciale. Enfin, la justice s'est déclarée incompétente pour juger trois associations proches du Vlaams Blok. Le Vlaams Blok est ce parti politique nationaliste flamand d'extrême droite, une organisation connue pour ses positions xénophobes, racistes, antisémites et homophobes. Le Bloc a tout de même obtenu un tiers des voix lors des élections 2000 à Anvers, la plus grande ville flamande. Pour contrer ce parti néofasciste, toutes les autres organisations politiques s'étaient unies pour former ce qu'ils appellent un cordon sanitaire. Mais il y a un obstacle. En effet, un scandale pour corruption vient d'éclater dans la capitale économique flamande. Tous les élus de la ville d'Anvers ont dû démissionner. En effet, plusieurs d'entre eux auraient utilisé la carte de crédit mise à leur disposition pour les dépenses publiques de la ville. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous sommes à 2 mois des élections et que le Vlaams Blok risque de sortir conforté de ce scandale. À Bruxelles, Nicolas Willems pour Carrefour du Monde.
Cette semaine, le reportage de Carrefour du Monde est consacré à une chaîne de télévision, Zaléa TV, une chaîne française qui diffuse via le câble, le satellite et Internet, une chaîne indépendante qui fournit des programmes associatifs et non commerciaux. Elle se définit elle-même comme une organisation non gouvernementale d'intervention audiovisuelle d'urgence pour la liberté d'expression, pour le pluralisme et pour le droit à l'information télévisuelle libre. Mais l'indépendance dans les médias, ça ne plaît pas à tout le monde. Une alliance des partis de droite et d'extrême droite au Conseil régional d'Île-de-France a rejeté toute demande de subvention de la part de Zaléa TV. Une subvention qui devait compléter le financement de la diffusion depuis la Tour Eiffel et un manque à gagner de près de 20 000 euros. Olivier Azam et Boris Perrin travaillent pour Zaléa TV. Tous deux ont répondu à Nicolas Willems.
Alors Zaléa TV, c'est ce qu'on appelle nous une télé libre. Alors une télé libre, je vais me demander ce que c'est. Une télé libre, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire ailleurs à la télé. C'est ce qu'on fait à Zaléa, quoi, en gros. Quoi, voilà. Donc plus concrètement, Zaléa, c'est une structure associative à but non lucratif qui à la fois pratique le libre accès qu'on appelle nous éditorialisé, qui à la fois permet de sortir certains films, des documents qui sont interdits à la télévision, et qui d'autre part donne la parole aux gens directement et aux organisations, aux associations qui sont énormément productives partout dans le monde et qu'on peut voir sur Zaléa. On n'est pas loin de ce qu'on peut voir dans différents modèles à l'étranger, notamment parce que ça existe en télé depuis très longtemps partout ailleurs, quasiment dans toutes les grandes démocraties. Mais en France, ça n'existait pas. Ça a été légalisé seulement en 2000 avec la nouvelle loi sur l'audiovisuel. Mais ça a été légalisé parce qu'on s'est battu pour que ça le soit. C'est-à-dire qu'on a fait des actions pirates. Enfin, il y a eu un combat qui a duré 20, 25 ans depuis les radios libres et qui a abouti sur la légalisation des télé associatives. En montant Zaléa, on a essayé de pousser le bouchon un peu plus loin et de dire ok, maintenant il y a des autorisations, mais il n'y a aucun moyen économique, il n'y a pas de, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du procédé, notamment économiquement. Et donc voilà, nous on va essayer de monter un modèle qui sera un parmi d'autres et qui sera un modèle de télévision nationale au moins, quoi, parce que on voulait pas être enfermé dans les murs de la localité, parce que ça c'était acquis, mais on n'avait pas encore. Les politiques n'avaient pas acquis la notion de médias alternatifs à grande échelle. Zaléa, sur le mode de fonctionnement, on n'a pas de ligne éditoriale à proprement dit, bien qu'il y ait une charte éditoriale qui exclut tout ce qui peut être notamment fasciste, xénophobe, antisémite, raciste, sexiste, et que au-delà de cette charte-là, on ne s'interdit pas de donner la parole aux gens. Sachant que, évidemment, nous, on a une pratique de l'accès public qu'on appelle éditorialisé. C'est-à-dire qu'il y a un accès qu'on organise, qu'on met en valeur, parce que pour nous, il ne suffit pas, contrairement à certaines chaînes à l'étranger, on pense que ça ne suffit pas de mettre bout à bout comme ça, de balancer dans un tuyau des documents, mais qu'il y a un travail à faire tout autour. Et c'est essentiellement le travail qu'on fait avec la production qu'on fait tout autour, par exemple les plateaux en direct, où on présente en permanence tout ce qui se fait, où on explique dans quel contexte ça a été fait, ce qu'on appelle des contextualisations chez nous. C'est une façon, si tu veux, en permanence de mettre en valeur les programmes qui sont à l'antenne.
Donc si, moi je veux regarder Zaléa TV, qu'est-ce que je pourrais voir par exemple ?
Alors si tu veux regarder Zaléa TV, déjà il faudra que tu arrives à régler ton téléviseur sur le canal 35, hein, mais ça c'est simple, c'est puisqu'on diffuse en hertzien, hein, donc c'est simplement avec une antenne râteau qui est sur le toit. Donc qu'est-ce que tu pourras voir ? Ben, c'est assez varié, ça sera à la fois comme disait Olivier, ça peut être des programmes que les gens vont apporter, mais des gens à la fois ou des individus, ou des associations, ou des ONG, ou des réalisateurs. Tu vois, par exemple, on a diffusé des films de Marcel Hanoun, on a diffusé des films de René Vautier, on a diffusé des films de Peter Watkins, qui sont quand même des grands noms, ou du cinéma ou de la télévision, et qui ont toujours eu, malgré leurs grands noms, ceux qui sont reconnus dans l'histoire du cinéma, par exemple, ont eu toujours un accès difficile à la télévision, dans le contexte dans lequel on est. Ça peut être aussi, par exemple, on a fait ça récemment avec Médecins Sans Frontières, donc des documents qui ne passent pas à la télévision, mais sur toute la politique qui mène sur le terrain autour de la vaccination, ou sur le sida, ou sur les conflits où ils sont présents, tu vois, la Tchétchénie, Srebrenica, etc. Ça peut être aussi des associations comme Greenpeace, de la même manière. Et puis, ça peut être du court-métrage, du cinéma expérimental. Enfin, c'est assez varié, c'est assez éclectique. Ça peut être du document politique, document social. C'est très, très large.
Non, simplement qu'il y a un travail qui est fait sur la durée. Qu'on a démarré, il y a maintenant 3 ans qu'on a démarré Zaléa. Sachant que effectivement, par les aléas, j'allais dire, des autorisations données par le CSA temporaire et les difficultés financières à mettre en place ces opérations, comme l'opération Tour Eiffel qu'on est en train de faire en ce moment, il y a difficilement une continuité qu'on peut établir sur le travail qu'on fait de programmation, par exemple. Donc, si tu vois, à chaque fois, on est déstabilisé pendant les périodes où on n'est pas en diffusion. Et je pense qu'il y a une volonté, en tout cas une mauvaise foi exprimée par notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui sait très bien qu'en faisant à la fois des découpages comme ça du temps, parce qu'on a aussi des créneaux de diffusion complètement absurdes, on est visible, nous, par exemple, que le mardi, le mercredi, le jeudi, et une fois sur deux le lundi, de 22h30 à 2h30. Donc ça, c'est une façon aussi de rendre difficile l'accès à ce type de chaîne, sachant qu'il y a beaucoup d'espace libre encore. Mais après, même sur la durée, sur l'année, on est en diffusion peu de temps finalement par rapport aux capacités qu'on a. On reçoit tous les jours des tas de documents qui arrivent et qui font la queue pour être diffusés. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème qui est, on peut dire que c'est un problème d'ordre politique, puisqu'on ne peut pas maintenant remettre en cause notre capacité à mettre en vitrine ces programmes. Par contre, on est en permanence affaibli par par ce mode de traitement qui est discriminatoire, il faut le dire.
Carrefour du Monde, c'est terminé pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition. Cette émission n'aurait pas été possible sans le concours de Clarisse Sérigna à la réalisation, à la coordination à Montréal. Merci également à nos correspondants, André Michel Essungu à New York, Nicolas Willems à Bruxelles, Éric Larouche à Montréal, Emmanuel Stills à Madrid et Hélène Mercier à Édimbourg. Cette émission vous a été présentée depuis un tout petit village français, Aoste, dans l'Isère. C'est ça le charme de Carrefour du Monde, passé de New York à Bruxelles et à Aoste. Enfin, c'est magnifique. Merci de votre attention. Vous pouvez nous écouter et écouter cette émission tous les 15 jours à Montréal sur CISM 89,3 FM et à Bruxelles sur Radio Campus 107,2 FM, à Bruxelles également sur Radio Panique 105,4 FM. Je vous invite également à visiter notre site internet au www.carrefourdumonde.org. À la présentation, Nicolas Perronnet. Salut et à la prochaine.